est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. René Char. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Après les ors du Conseil d'État, les deux semaines passées, je vous emmène cette semaine dans un café de Saint-Mandé. Un peu bruyant, certes, mais nous dirons que cela crée une atmosphère. En tous les cas, le jeu en vaut la chandelle et les oreilles, puisque mon invité cette semaine est une chanteuse à la voix de velours, récompensée par plusieurs victoires de la musique. Mon invité est juste quelqu'un de bien. Mon invité, c'est Enzo Enzo. Et ce qu'elle a à nous dire est absolument essentiel. Rencontre.
Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Son grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien.
Bonjour Enzo Enzo.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait d'un de vos plus grands succès, Juste quelqu'un de bien, issu de l'album 2, un titre sorti à l'automne 94 et signé Kent, devenu chanson de l'année aux Victoires de la Musique en 95. Cette année-là, vous êtes aussi artiste, interprète féminine de l'année. Est-ce que à l'automne 1994, quand vous enregistrez Juste quelqu'un de bien, vous avez l'intuition, vous avez là quelque chose qui va toucher les gens, même 20 ans plus tard?
Alors, absolument pas. Mais alors, absolument pas. Elle me paraissait accessible à chacun et elle m'a pas émue, en ce sens qu'il y a des chansons qui vous donnent envie de pleurer ou qui vous mettent dans un sentiment, mais elle m'a paru juste. Et l'arrangement était quand même très proche d'une chanson qui était déjà très connue, et l'arrangeur François Boyan à ce moment-là a essayé de décaler un petit peu cette proposition du compositeur.
De quelle chanson était-elle proche?
De À bicyclette. La maison de disques nous a dit oui, mais elle est trop longue, elle n'est pas assez tonique. Et nous, avec Kent, on s'est dit ben non, on n'a pas tellement envie de la raccourcir, on n'a pas envie de la chanter de manière plus musclée puisque ce n'est pas du tout le propos de la chanson. Et la maison de disques a accepté et la chanson a rencontré vraiment un très grand succès. Ça tient aussi, je crois, au choix de l'instrument, du vibraphone. Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose comme ça qui a beaucoup plu au grand public. C'était un instrument qui n'était pas du tout utilisé à cette période-là. Et je crois que ça a plu aussi, cet élément-là.
Merci.
Est-ce que je peux avoir du lait froid plutôt?
Oui. Normalement, c'est du lait froid.
Bah, je sais pas pourquoi il est chaud.
Il a mis du lait chaud.
Il s'est trompé.
Vilain barman.
Ah, le vilain barman, on va le taper.
Cette chanson, ces mots, votre voix douce et profonde à la fois, votre interprétation, ils ont marqué plusieurs générations. Ça, c'est le sentiment d'un spectateur, d'un auditeur, c'est mon sentiment.
Ouais.
Et vous, quand vous la chantez, cette chanson, vous dites au début, quand je l'ai reçue, j'ai pas été plus ému que ça.
Ça fait donc beaucoup d'années que je vis sur scène avec elle. Et il y a des moments où je suis bouleversée de la chanter. Elle a des échos particuliers. Ce qui est en tout cas très 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 touchant pour moi aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je la chante, les gens, je sens qu'ils sont heureux de la retrouver, cette chanson. Et selon les périodes que je traverse, selon les concerts, j'ai une implication où j'ai envie d'être... de partager une certaine joie, une certaine complicité. Puis il y a des fois, je prends la chanson très au sérieux pour moi-même et je me dis moi-même, mais mon Dieu, tout ce que j'ai traversé aujourd'hui par rapport à ma propre carrière, Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est d'avoir été, est-ce que c'est d'être intègre, d'avoir toujours choisi des chansons qui plaisaient d'abord à mon sens esthétique et à mon cœur, plutôt que d'avoir fait des choix peut-être plus commerciaux, d'avoir fait appel à des... Et c'est vrai que cette chanson, quand je la chante, si je pense à cet aspect-là de ma carrière, elle me touche. Bon, les victoires de la musique, c'était important, mais j'étais pas très disponible dans ma tête. J'étais très inquiète, en fait. J'étais dans une période de ma vie où j'avais l'impression que je valais rien, j'étais débordée, j'avais des enfants, c'était compliqué. J'étais heureuse, mais je me disais, oh là 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 là, c'était trop, je sais pas comment vous dire. Ça m'a beaucoup aidée, bien sûr.
Vous avez fêté les 20 ans de cette chanson, si on peut dire, et pour l'occasion, vous avez enregistré un duo avec Zaz,
oui,
qui exporte aussi la chanson française à l'étranger. Pourquoi ce choix ?
Parce qu'elle aimait beaucoup la chanson. C'est une jeune femme qui est très intègre. Après, j'ai vu qu'elle était très engagée auprès des Colibris.
Oui.
C'est une association auprès de laquelle je suis engagée et dont je me sens proche. Voilà, ça nous faisait plusieurs points communs. Je lui ai proposé et contre toute attente, elle a accepté parce que je sais qu'elle a beaucoup de sollicitations. Et on a pris la voiture et on a été au Mans, là où elle était en train de créer son nouveau spectacle pour sa tournée. Il y avait aussi, je pense que ça a été possible, et ça il faut que ça se sache, c'est qu'il n'y avait aucune vocation commerciale. Tout le monde demande à faire des duos avec tout le monde parce qu'il faut être branché avec un tel, avec un tel, avec un tel. Le fait que ce soit un acte pour la beauté du geste, je pense que ça a concouru à son acceptation. Et voilà, il y a des gens que ça surprend parce que Zaz et moi, on est toutes les deux des femmes, on chante toutes les mêmes, mais on n'est quand même pas de la même génération, on n'est pas dans la même veine de succès actuellement. Mais ça prouve que les chansons sont capables de traverser les époques.
Et c'est le partage avant tout.
Oui.
On parlait des duos, on peut parler des reprises aussi, puisque vos 30 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière, ils ont commencé par un premier 45 tours. Il y a deux titres, et le deuxième, China Girl, c'est une reprise de David Bowie. Bowie, il est mort le 10 janvier 2016. Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui au point de vouloir reprendre cette chanson China Girl ?
Cette chanson me parlait. À l'époque, je sortais d'un groupe et j'étais bassiste. C'était dans la musique que j'aimais, que j'écoutais. Je ne peux pas vous expliquer vraiment. J'aimais David Bowie, mais je n'étais pas une folle dingue amoureuse. Je peux que saluer sa carrière aujourd'hui. Il y a des titres que j'adorais, spécialement Ashes to Ashes ou Life on Mars. Mais je suis pas une collectionneuse de voilà.
Et China Girl, du coup, que vous avez reprise. Alors, ce premier 45 tours, vous le sortez sous le nom de Corinne Novitz. Il faut attendre 2 ans. En 1984, les titres Blanche-Neige et Oiseau de Malheur pour un premier 45 tours sorti sous le pseudonyme d'Enzo Enzo.
Oui.
Alors pourquoi ce choix de ce pseudonyme finalement Enzo Enzo ?
Mon premier disque, j'étais novice pour le coup, donc je voulais un nom qui correspondait à ce que j'étais par rapport au métier. Et puis à partir du deuxième disque, je me suis dit, je peux plus être novice puisque je ne le suis plus. Et c'était marrant parce qu'à l'époque, c'était possible de changer le nom de coup de cuillère à peau. C'est vrai que c'était en même temps, ça s'accompagnait d'un changement de maison de disque. Et que je ne sais pas exactement ce qui m'a pris d'avoir envie de changer de nom, mais je crois que c'était... Je reconnaissais que ce que j'allais produire, ça allait être en compagnie de beaucoup de personnes qui devaient m'entourer, des arrangeurs, des musiciens, des compositeurs, des auteurs, des éditeurs, en fait, beaucoup de personnes qui allaient être autour de moi. Et je me sentais mieux en choisissant un nom qui englobait toutes ces participations, tous ces partages, tous ces échanges qui étaient absolument nécessaires pour que je développe ma carrière.
C'est pour ça que vous avez choisi un pseudonyme double, c'est ça que
voilà,
vous voulez dire.
Voilà, un nom qui enveloppait plusieurs personnes, en fait comme un nom de groupe.
Enzo Enzo, c'est aussi le titre de votre premier album,
oui.
Plus un 45 tours, un album, et on y retrouve la chanson Les yeux ouverts.
Ce souvenir, je te prends. Des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur, la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir.
C'est l'adaptation française de la chanson Dream a Little Dream of Me, qui a été écrite dans les années 30 par le duo André et Schwanz, qui a été enregistrée pour la première fois par Ozzy Nelson. Après, il y a eu de nombreuses reprises. Avant la vôtre, une très connue, c'est celle d'Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong. C'est un standard du jazz. Vous avez toujours voulu avoir un côté jazzy?
C'est une musique qui me parle beaucoup, c'est la musique que j'écoute principalement depuis très longtemps. Ça me parle, ça m'apaise, ça me dynamise. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie et ça a été une reprise qui a été un peu houleuse parce que quand nous nous sommes retrouvés en studio, on n'a pas eu le droit de l'enregistrer parce que avec les contrats américains, c'est toujours très compliqué. Donc ça s'est fait vraiment à l'arrache à l'époque avec la maison de disques. On était en studio, on n'avait pas les droits, donc on ne savait pas du tout ce qui allait pouvoir se passer. Ça a été aussi l'occasion d'écrire un texte en français qui n'est pas une traduction mais une adaptation, ce qui était vraiment un gros pari. Et le pari a été tenu et cette adaptation, ça me fait plaisir parce que je l'ai entendue, elle a été reprise. Bonne adaptation en français a été reprise par des Américaines, par des Anglaises, par des Coréennes, enfin je sais, ça me fait très 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 plaisir.
Une nouvelle vie et comme une boucle qui se referme.
Oui, voilà, voilà.
Le hasard du partage de la musique. Alors on continue de feuilleter votre discographie, Enzo Enzo, et à partir des années 2000, vous sortez plusieurs albums de chansons pour enfants et puis pour les grands enfants aussi. Ce sont les albums Chansons d'une maman en 2007, Trois histoires comme ça en 2008, Clap également en 2009 et puis Chansons d'une maman pour culotte courte en 2011.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Les dessous troublants, c'est pour ma maman. Ses chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, aux trous grands comme ça, c'est pour mon papa.
À ce moment-là, on venait de m'inviter à chanter pour une œuvre, un opéra pour enfants qui s'appelle Pinocchio pour toujours, dont le livret a été écrit par Pascal Mathieu, qui est un auteur que j'aime énormément.
Et vous faisiez La Fée Bleue ?
Et je faisais La Fée Bleue. Et Romain Didier, que j'aime aussi beaucoup. Et il m'avait invité avec La Fée Bleue. Et ça m'avait permis d'utiliser ma voix de soprane, une voix claire, une voix aiguë, que je n'utilise pas tellement dans mon propre répertoire. Et puis me tourner comme ça vers l'enfance, ça a comme par hasard fait ricochet. Il y a la collection J'aime lire qui m'a proposé d'être narratrice pendant deux publications. Et puis mes enfants venaient de quitter la maison. Et j'étais comme ça très, très sensible au monde de l'enfance. Je me rendais vraiment compte qu'il y avait une espèce de page qui était tournée avec le départ de mes enfants. Et puis j'ai construit ce projet, j'ai rencontré la directrice des programmes de Naïve Jeunesse et elle avait envie qu'on collabore. Donc on s'est dit, bon ben commençons par un album de reprise. Il y a tellement de chansons que j'adorais et qui dataient un petit peu dans leurs arrangements. Donc on a fait le pari de faire un premier album qui a été très très bien reçu. Et du coup j'ai continué et je me suis arrêtée parce que... finalement, j'ai pêché par excès, c'est-à-dire que j'ai une année sorti un album pour adultes et un album pour enfants. Et les médias n'ont pas su pourquoi je sortais deux trucs à la fois, ils ne savaient pas quoi parler. En plus, on avait fait une création pour le public jeunesse en même temps. Il y avait trop de choses. Et puis, il y a eu une réflexion d'un média qui m'a énormément vexée et qui disait que je me raccrochais aux branches parce que ma carrière adulte marchait plus bien et que donc je faisais des choses pour les enfants. Et ça m'a tellement énervée, déçue. Ça m'a dégoûtée, quoi. Je me suis dit, bon, alors... c'est même pas la peine que je continue. Je sentais qu'il fallait que je fasse un choix. Et pour moi, ben, le choix, c'était quand même de rester dans les créations des chansons adultes.
Dès que l'enfant me paraît, je me casse. Je peux pas saquer les pulls à pisse. Je leur mords les joues quand ils m'embrassent. Et quand ils pleurent, je leur pince les cuisses. C'est mon truc, mon sacerdoce. Je hais les gosses.
Mais bien sûr, c'est une chanson de Presto. Je suis totalement mordue. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de chansons de lui dans mon répertoire et c'est très puissant.
Vous l'avez connu personnellement ?
Oui, bien sûr, c'était un ami. Je l'ai connu et j'ai pu lui dire mon admiration. Il m'a écrit de nombreuses chansons et je suis très très fière de le défendre.
Alors les années 2000, pour vous, ce sont aussi les années théâtre.
Oui.
Vous faites quelques pièces et notamment les monologues du vagin. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte ?
Le militantisme pour prendre la parole au nom des femmes et lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde entier.
C'est une pièce américaine au départ ?
C'est une américaine qui a écrit. Et puis ce sont des témoignages, ce n'est pas une fiction. C'est le recueil de témoignages de femmes à travers plusieurs lieux, plusieurs époques, et réunies pour témoigner de ce que la réalité d'une femme. C'était une pièce qui permettait de prendre la parole et de faire sourire aussi. Et c'était ma première expérience au théâtre. Et ça m'a fait rencontrer une comédienne en particulier, qui est Isabelle de Botton, avec laquelle j'ai collaboré par la suite, puisqu'elle a fait la mise en scène d'un spectacle, une création sur les chansons de Marie Nimier, et que ça reste une amie et qu'on a des projets ensemble. Et puis ça m'a mis le pied à l'étrier parce qu'ensuite, effectivement, j'ai pu jouer une nouvelle pièce et c'est une nouvelle corde à mon arc que je n'aurais peut-être pas osé envisager comme ça. Ça a été le fruit de rencontre, en fait, aussi, cette affaire de théâtre. Et je me prends au jeu. Et d'ailleurs, ma prochaine création, qui sera en duo avec Laurent Vielle, de nouveau sur un livret de Pascal Mathieu et des musiques de Romain Didier, c'est la création d'un spectacle sur le thème de la famille, qui sera créé à partir d'octobre 2016, sera mis en scène par un metteur en scène de théâtre qui m'a mise en scène il y a un an et demi ou deux ans dans une pièce originale qui s'appelait Idole.
Les rendez-vous sont pris, musique, théâtre donc, et puis les deux à la fois parfois. Sur votre site officiel concernant donc vos actualités, avant vos prochaines dates, on peut lire la formule « Enzo sera bientôt par ici et par là ». Ça vous plaît ce côté chanteuse itinérante ? Vous allez chanter là où on vous appelle ?
C'est carrément ça. Le métier aujourd'hui a ramené beaucoup d'artistes à un statut de encore plus baladin que jamais. Aujourd'hui, on voit des Alain Souchon dans des petites salles de 300 à 400 places, des Jean-Louis Aubert qui parfois font des concerts dans ce type de salle aussi. Donc, pour que les artistes, les jeunes, ceux qui arrivent en développement, et des artistes qui n'ont pas une actualité débordante, qui ne sont pas coach à la télévision pour des grosses émissions, et donc qui ne sont pas bombardés par les médias en promo, ça devient très très difficile. Donc on est plus que jamais des artisans. Et finalement, ça n'enlève rien à la qualité du répertoire et de ce que les gens apportent. C'est essentiel pour moi de pouvoir chanter dans ma vie. Donc si ça n'est pas un Olympia et que c'est un forum Léo Ferré, eh ben, je suis heureuse d'aller chanter.
Alors, vous parlez de la qualité de votre répertoire, j'approuve. Enzo, ma chanson préférée de vous, c'est Les idées floues.
Ah oui.
De l'un de fond en bas. poliment. Comment peux-tu ficher le camp? On valait quand même autre chose. Quel fichu sentiment, ces idées floues. On méritait mieux quand même. Je sais, tu t'en fous. C'est un brouillon, des trémolos qui valent mieux quelques clous.
Bien, c'était l'époque d'une rencontre avec un compositeur anglais qui s'appelait Egg. Il avait un groupe anglais qui s'appelle Egg and Alice, que j'avais rencontré à l'occasion de cet album-là. C'était mon directeur artistique à l'époque, qui était Bertrand Lamblot, qui n'était pas à l'époque chez Universal, mais qui était mon directeur artistique, et qui me l'avait fait rencontrer, cet homme-là. Et ça m'avait donné l'occasion de m'en réfléchir en travaillant avec une personne qui n'était pas de culture française, qui n'avait pas ces repères-là, et qui m'avait vraiment invité à oser écrire de nouveau des textes, et à me lâcher un peu, à m'engager un petit peu plus, à lâcher ma voix. C'était une chouette période où un directeur artistique faisait vraiment beaucoup de propositions.
Deux questions pour terminer. Leur formulation est simple, la réponse peut-être moins. Pour reprendre le titre de cette émission absolument essentielle, qu'est-ce qui est absolument essentiel en musique, Enzo?
L'émotion, je pense, tout simplement. Que les gens se livrent, qu'ils soient entiers. Il y a des gens qui ont plus de grâce que d'autres. Et puis il y a des gens qui sont tellement... c'est tellement important pour eux, c'est tellement essentiel, c'est tellement motivant, c'est tellement important pour eux de dire ce qu'ils sont venus porter, que ça saute aux oreilles, quoi. Et ces frissons-là, je pense qu'ils sont essentiels. Les modes, les difficultés ne te sont pas graves.
Et dans la vie, qu'est-ce qui est absolument essentiel?
La naïveté, je pense. La part d'innocence, la curiosité, la joie de vivre, qui peut vraiment être alimentée par des toutes petites choses. Et je crois que la porte d'entrée de la fantaisie et de l'humilité sont des bons ressorts pour y parvenir.
Merci Enzo.
Je vous remercie beaucoup.
Enzo sera le 12 février en duo guitare-voix à Ivry, les 25 et 26 mars à Lyon, oui à Lyon, à tout bout de champ exactement, et puis le 1er avril à la Ferté-Saint-Aubin ou le 21 mai à Thiès. Plus de dates, plus de renseignements sur le site enzo-enzo.com. Et parmi les valeurs qui comptent pour Enzo, il y a la transmission. C'est tout nouveau, elle propose des ateliers de chant et d'interprétation. Pour réserver, une seule adresse: Atelier Enzo, au singulier tout attaché, @sfr.fr. La semaine prochaine, on change de décor, fini les cafés, on change de sujet, surtout puisque je recevrai le consultant de France 2, Pierre Servant, pour son livre « Extension du domaine de la guerre » aux éditions Robert Laffont. À la semaine prochaine, donc, et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.